La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de cette 24e mêlée de l'info. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro où nous allons débattre encore une fois des sujets à la une de l'actualité nationale. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC, et Gabriel Robin, essayiste et journaliste, responsable des pages société du magazine L'Incorrect. Bienvenue aussi à vous deux, merci d'être présents au rendez-vous de la mêlée de l'info. Alors je précise que nous devions aussi accueillir Pierre Juston, qui m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire que malheureusement il avait fait une mauvaise chute à vélo, donc il ne pourra pas être parmi nous. On l'en excuse et on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Nous allons ouvrir nos débats avec un sujet qui revient dans l'actualité après être resté quelques temps en sommeil. Il concerne le projet de loi sur le climat où l'éventualité de l'instauration d'une écotaxe sur les poids lourds refait surface. Il est envisagé, en effet, de donner aux régions le droit de mettre en place des contributions spécifiques imposées aux transports routiers de marchandises à partir du moment où les poids lourds empruntent le réseau routier national, un réseau routier qui serait alors pris en charge et entretenu par les collectivités locales. Autrement dit, le gouvernement proposerait donc aux régions et aux départements de gérer les routes nationales sur leur territoire dans le cadre d'une expérimentation pour commencer. Êtes-vous favorable, chers invités, de manière générale à l'instauration de cette écotaxe? Et si oui, la mettre en place selon les termes que je viens de décrire, en laissant sa gestion aux régions et aux départements et en confiant à ceux-ci l'entretien des routes nationales, vous semble-t-il une bonne manière de procéder? Annie Thomas, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'ai envie de dire qu'il faut se méfier des idées simples, que je qualifie parfois de simplistes. L'idée simple, c'est le principe du pollueur-payeur sur lequel repose bien sûr cette écotaxe, qui n'est pas une écotaxe d'après le Premier ministre, mais qui serait une taxe malgré tout. On peut la considérer comme cela. Donc, c'est une idée simple. Je pollue, je paye. Or, on a très bien vu dans les mois précédents, voire dans les années précédentes, si on remonte à 2013, les bonnets rouges en Bretagne, on a vu que cette idée simple, elle a tiré des complications absolument énormes, des incompréhensions aussi parmi la population, parce que aujourd'hui, dans notre société, nous avons une pelote de fils serrée, tressé très très finement, et quand on commence à tirer un de ces fils, eh bien ça fait du dégât, on n'y arrive pas, parce que tout est mêlé. Et donc c'est très très compliqué de gérer cette affaire-là. Donc ça me gêne effectivement de voir arriver cette proposition sans que derrière il y ait un plan différent massif qui pourrait l'accompagner. Mais j'y reviendrai. Donc cette idée de taxer le transport routier avec une écotaxe, sur le papier, ça semble simple, et ça repose sur l'idée que si on va taxer le transport routier, ils vont moins rouler, peut-être, ou bien ils vont se dérouter vers le fret ferroviaire, voire même le transport par l'eau sur les voies navigables. Or, parfois, dans notre pays magnifique, il n'y a ni fret routier, ni ligne dédiée de la SNCF ou des concurrents, et il n'y a pas non plus une adaptation des voies navigables. Parce que les choix qui ont été faits par notre société depuis les années 60-70, c'est le tout voiture. Donc on a tué parfois des lignes de chemin de fer. On n'a pas fait de programme sur les canaux. La France est sous-équipée par rapport à d'autres pays au monde. Par exemple, le canal du Midi reste toujours à la dimension qu'il avait au XVIIe siècle, quand il a été construit.
Il n'a jamais été élargi.
C'est extraordinaire. Hein. On imagine quand même les choses. On a réduit la bicyclette au sport. On voit maintenant la difficulté de réintroduire les modes doux de transport dans les villes ou hors des villes. Je travaille sur cette question à Blagnac, où je suis au comité économique et social local. On essaie de réintroduire dans la ville, qui n'est pas si mal, puisqu'on a des pistes cyclables par-ci, par-là, on a à peu près tout ce qu'on veut, mais on voit très bien la difficulté. Donc on a tué la bicyclette, la marche à pied, on a mis des obstacles un petit peu partout. Donc, sur le papier, ça semble simple, mais quelque part, je me dis que ce n'est pas simple. Pour moi, cette proposition, elle doit être accompagnée. Je viendrai ensuite sur l'aspect décentralisation, qui est l'autre volet. la carotte un petit peu, hein, voilà. Ça doit être accompagné de quoi, me semble-t-il ? D'un plan de transition, de transformation de la flotte. Il faut aider la flotte routière à verdir. Déjà, je pense que ça, c'est une énorme priorité. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne, dont on dit qu'elle a inspiré l'écotaxe, l'avait aussi recommandé. Il faut aussi une harmonie européenne. Plusieurs fois à ce micro, je me suis un peu bagarrée sur le fait que l'Europe existe et qu'elle doit être travaillée, harmonisée.
Y compris dans ce domaine, vous voulez
dans
dire.
Ce domaine, oui. Pourquoi en Alsace, il y a autant de camions? Et pourquoi le conseil régional d'Alsace a dit, le premier, « Ah, je suis prêt à le mettre en place ». Parce que les camions qui traversent l'Allemagne sur cette frontière franco-allemande passent de l'autre côté, du côté français, parce que du côté allemand, il y a des impôts. Il y a des taxes pour les poids lourds. Et donc, ils passent de l'autre côté. Ensuite, ils repassent en Allemagne. Donc, on a une vraie difficulté. Avoir un plan ambitieux pour les voies navigables. Avoir un plan ambitieux pour produire local et consommer local. Donc, moins de déplacements. On doit ensuite, me semble-t-il, en parallèle, penser aux salariés. C'est-à-dire que si on fait cela, ça va avoir des conséquences sur les entreprises. Soyons clairs. Donc, aider les entreprises, aider les salariés. Je reviendrai peut-être après, si vous voulez, sur la décentralisation.
Oui, bien sûr, on va en parler dans un second temps. Et Gabriel Robin.
Sur l'Europe, j'aimerais rebondir sur la question du principe pollueur-payeur. C'est la question du principe pollueur-payeur, en fait. C'est une notion d'économie très simple, en fait. Ça vient des externalités, en fait. C'est l'école classique. Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut taxer l'actif dont le produit social net est inférieur au produit marginal privé net. Alors, je sais que ça n'a pas l'air...
Il va falloir développer.
Ça n'a pas l'air très...
On nous explique.
Très simple. Mais en fait, on donne un prix à ce qui n'en a pas. Voilà. Ça n'a pas de prix, pour l'instant, le fait de pouvoir circuler en France. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puisque on s'aperçoit, malgré tout, dans notre pays, qu'il y a déjà une fiscalité élevée, au global, que dès qu'on a un problème, on taxe. En 2014... ils ont eu cette idée d'instaurer l'écotaxe en 2013. Et il y a eu effectivement la révolte des bonnets rouges, qui ressemble par certains aspects d'ailleurs à ce qu'on a connu après avec les gilets jaunes. Puisque je me rappelle que juste avant le déclenchement des gilets jaunes, époque où je discutais avec certains hommes politiques qui étaient à l'Assemblée nationale, on avait pointé 3-4 mois avant cette hausse de l'essence comme étant potentiellement... le déclencheur d'une grande révolte sociale. Et ça a été longtemps méprisé. C'est-à-dire que vous aviez sur Facebook les usagers de la route, les clubs de motards, et c'est parti de là, en fait. Donc c'est des gens peu politisés, qui sont pas syndiqués, justement, qui sont pas forcément encartés dans des partis, mais qui se réunissent dans des lieux de discussion, des forums virtuels, etc., où ils sont unis par... soit par un usage, et là c'était l'usage de la route, soit par des intérêts, et on s'aperçoit aussi en France que ceux qui utilisent le plus la voiture, ce sont les gens qui ont le moins d'argent. Donc quand on a quand Hérault a renoncé à l'écotaxe et au portique, etc., ça a coûté 1 milliard d'euros à la France de l'abandonner. Il y a eu la perte d'écotaxe, il y a eu la baisse aussi de la taxe à l'essieu, en fait, puisque on avait baissé la taxe à l'essieu pour pouvoir faire l'écotaxe. Mais en fait, on ne l'a jamais remonté, puisqu'après, s'ils avaient voulu le remonter, ils auraient pris une deuxième rébellion. Mais mécaniquement, on a augmenté la TIPCE. Donc, c'est-à-dire que la TIPCE, elle ne taxe pas que les poids lourds, elle taxe tout le monde, vous et moi, en fait, tous les usagers de la route motorisée, quoi. C'est-à-dire, y compris même ceux qui ont des scooters. Donc ça, c'est un vrai problème, si vous voulez. Cette idée, en fait, qui a été abandonnée, qui a coûté cher et qui a provoqué cette augmentation, on veut essayer de la faire revenir d'une autre manière, en faisant porter le poids, en plus de la décision, sur les collectivités locales, sans flécher les budgets. Moi, ça me semble quand même pas forcément quelque chose de très souhaitable. Ça me semble aussi une idée qui peut susciter encore de la révolte et de la gronde dans le public. Et puis après, si on regarde en fait le transport routier en particulier, il n'est qu'un maillon de la chaîne logistique. Donc pourquoi les transporteurs routiers seraient plus taxés, par exemple, que les entrepôts Amazon qui vont réceptionner la marchandise, ou que Leclerc? C'est-à-dire, vous allez taper là, sur le transport routier.
Ça ne pesait que sur le transporteur.
On ne fait peser que sur le transporteur le poids en fait écologique et économique du transport. Alors qu'en fait, le transport... c'est l'ultime étape en fait d'un maillon logistique, industriel, économique est beaucoup plus important. Et après, je reviendrai aussi sur l'Europe parce que c'est extrêmement, ça me semble très très fondamental dans cette question, puisque la question du dumping social en la matière, du dumping écologique,
n'est pas prise en compte. Vous voulez dire.
Elle n'est pas du tout prise en compte. Donc, c'est encore le transporteur routier français en France qui va payer. Et les autres, et puis au pire, ils détourneront, ils ne passeront pas par la France, ils trouveront rien de nous éviter.
Effectivement, alors c'est là qu'on en arrive à l'aspect décentralisation, voilà. Et du fait qu'on laisse le choix aux régions, c'est-à-dire qu'en fait l'écotaxe serait déléguée aux régions, aux départements, pour leur permettre de financer la gestion et l'entretien des routes nationales grâce à ces contributions, avec une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières, et en faisant payer donc les transporteurs, mais les collectivités auront le choix. Est-ce qu'il faudrait, si ça se met en place, est-ce qu'il faut leur laisser le choix ou imposer cette mesure sur tout le territoire national ?
Écoutez, moi j'ai le même sentiment que vous, c'est-à-dire que c'est une décentralisation par petits bouts, qu'on ne voit aucun schéma général, qu'on comprend très bien que de la part du gouvernement c'est relativement tactique de jouer sur le fait qu'on sait très bien que les conseils régionaux se sont positionnés depuis fort longtemps pour gérer les routes et comme d'ailleurs gérer d'autres structures. Il y a plusieurs personnes ici à ces micros qui en ont souvent parlé, donc achever véritablement la décentralisation. Mais ceci ne me semble pas être une décentralisation achevée. D'une part, comme vous le disiez, il y a une forme de volontariat. Donc, très bien. Par exemple, imaginons un routier qui part à Lille, de Lille, et qui s'en va à Perpignan. Il va traverser une série de régions françaises, beaucoup, n'est-ce pas ? Donc, on nous dit, il va payer sa taxe avec une forme de vignette qu'il achèterait à Lille, par exemple. Donc, il achète la vignette à Lille. Il y a une part qui reviendrait à la région Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne, jusqu'à Occitanie. Mais si l'Occitanie n'accepte pas, est-ce qu'elle va toucher malgré tout une part de ce que la personne a payé là-haut ? Et qui va faire cette répartition ? Je dirais que c'est ingérable.
Oui, le problème de la collecte.
Ça va devenir ingérable. Ça va devenir un enjeu politique.
Et puis ça va devenir une administration extraordinaire qui va coûter plus cher que ce que ça va rapporter. Donc, pour moi, pour mon sens, je suis assez d'accord pour dire qu'on peut faire d'une expérimentation, mais l'expérimentation, elle doit être globale, parce que sinon, je ne comprends pas comment les choses vont se passer.
Là, vous avez tout à fait raison, juste une parenthèse, c'est que cette écotaxe, on en parle comme étant une mesure prétendument écologique. On s'est aperçu que le temps qu'elle n'a pas été mise en place, les émissions de CO2 ont quand même diminué. Donc si vous voulez, c'est pas les taxes qui créent l'environnement. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est une manière surtout de redistribuer des moyens aux collectivités locales qu'on n'est plus capable de leur donner.
Alors, le problème qui me semble être important aussi, c'est que on nous dit que cette taxe pourrait participer à réduire les problèmes du réseau routier. Hein. Madame Pécresse l'a dit, Madame Pécresse,
oui, elle est pour.
Elle est pour. Donc, l'Île-de-France et l'Alsace pour la raison que je viens d'expliquer, puisqu'ils sont inondés par tous les poids lourds de l'Europe centrale et allemande, qui ne veulent pas payer en Allemagne, et qui donc circulent de leur côté. Et on voit très bien l'enjeu pour l'Île-de-France. Hein, on voit très bien l'enjeu pour l'Île-de-France. Donc, elle est prête à accepter ça, avec l'idée que ça va permettre de rénover le réseau routier apparemment de la deuxième couronne d'Île-de-France, qui est dans un très mauvais état. Ça, je veux bien croire qu'il est dans un très mauvais état.
Il y a beaucoup de choses à faire, oui.
Mais il me semble que s'il y a cette écotaxe, elle doit aussi servir pour le réseau routier, mais aussi pour la flotte.
Oui. Pour la transition énergétique.
Voilà.
De la
sinon, on n'est pas. Sinon, on n'est pas dans le sujet. On n'est plus dans le sujet. Et Gabriel le disait, cette taxe ne sera pas fléchée. Elle pourrait être, vous savez, dans l'État français, dans le fonctionnement de notre système institutionnel, si une taxe n'est pas fléchée, on le voit très bien du côté de la sécurité sociale, eh bien elle disparaît. Ouais. Elle disparaît dans les impôts généraux et tous les ans le Parlement fait son débat budgétaire et c'est normal, il fait son débat budgétaire et donc il flèche. C'est lui qui va flécher. Donc s'il y a davantage besoin vers la défense nationale plutôt que vers les routes de l'Île-de-France, c'est ça qu'il fera. Le Parlement décide, c'est à lui de le faire. Donc une taxe, si elle n'est pas fléchée et si elle ne se réduit uniquement à l'entretien, je pense
là, ils l'ont pas fléché, d'après ce que
je comprends. Il y a un problème. Hein. Là, véritablement, pour moi, il y a un problème.
C'est comme sur 36 000 sujets en ce moment. Si vous voulez, l'État cherche de l'argent par tous les moyens. Enfin, soyons clairs, soyons honnêtes.
Oui, oui.
L'État cherche de l'argent par tous les moyens.
J'ai l'impression qu'il y en a de l'argent quand même.
Oui,
on en trouve.
Mais
on
sent se rater à taux zéro.
On sent qu'ils
cherchent
dans tous les domaines. Si vous prenez par exemple un cas qui n'a rien à voir, mais dont on m'a parlé pour la CAF, en fait, les aides au logement, bien, en ce moment, ils sont beaucoup plus regardants sur les dossiers.
Ils ont revu la PL
déjà. Ils revoient, et en fait, on sent qu'ils essayent quand même d'attraper là où ils le peuvent de l'argent. Après, moi, j'ai lu un truc de la Fédération nationale du transport routier, évidemment. Bon,
ils sont contre, ils sont debout.
Voilà. Je le comprends.
Et les syndicats routiers aussi.
Mais sans doute, tout le monde.
Mais ils disaient quelque chose d'intéressant.
L'unanimité.
C'est que, ils m'ont appris quelque chose que j'ignorais. 2/3 du transport de marchandises en France est réalisé sur moins de 150 km. C'est-à-dire qu'on ne franchit pas.
On reste dans la même région.
En fait,
deux régions maximum.
Et non, mais c'est même plus que ça. C'est parce que c'est 2/3 moins de 150 km. Ouais. Et parfois, au sein de la même région du 300 km, ça peut monter à 80% en fait, du transport global.
Oui.
C'est-à-dire le transport intranational.
Oui, il prend par les autoroutes.
Il passe à travers plusieurs régions.
Il passe par les autoroutes. Et donc là, il paye. Soyons clairs, on paye.
En plus, vous parliez tout à l'heure du fret. Je signale qu'il y a un an et demi, il a fallu que la région. Les élus locaux, les députés, Alliot et Delgas se sont alliés sur ce sujet.
Entendu.
Pour la question du train, en fait, du train de légumes, en fait, du train de légumes frais,
oui,
de Perpignan, du marché de gros de Perpignan, et qui monte à Rungis.
Oui.
Et l'État a failli abandonner L'État a failli l'abandonner, et ils auraient jeté des milliers de camions quand même sur les routes. Oui. Ce train a fait une dizaine de voyages à vide, des trucs scandaleux, quoi. Enfin, on a assisté. Un truc absolument scandaleux.
Il faudrait véritablement qu'il y ait un plan de transport par le ferroviaire, de grandes zones de production, à la fois agricoles, ce que vous disiez pour l'exemple du Roussillon, mais industriels aussi, vers les lieux de consommation. Oui. On a besoin d'avoir une cohérence par rapport à ça.
Un peu de bon sens pour les mobilités.
Mais bien sûr que oui. Donc tout ça peut s'organiser, doit s'organiser, me semble-t-il. Et puis n'oublions pas aussi un élément qu'on ne donne pas aux citoyens, c'est que tout prix dans le transport va se répercuter sur le produit.
Je vais vous poser la question.
Mais bien sûr.
Sur le consommateur final.
Vous nous avez cité tout à l'heure quelques éléments économiques. Enfin, bon, ça crève les yeux.
Il y a toujours quelqu'un qui paye.
À la fin, c'est le dernier qui paye.
C'est ce que dénonce d'ailleurs la Fédération des transports.
C'est le consommateur. Et ceux qui vont y perdre aussi, ce sont les producteurs. En fait, puisque
bien
ça
sûr.
Va être impacté aussi sur le prix d'achat.
Bien sûr.
Tout ça.
Oui, alors tout ça devrait être sur la table, me semble-t-il.
Et transport logistique.
Comme chaque fois, bon, on a un projet de loi qui va arriver. Et toutes les personnes qu'on devrait mettre autour de la table, qu'on devrait vraiment consulter, on le fera après que tout le monde se sera bien énervé, que tout le monde va avoir jeté tout par-dessus la fenêtre, toutes les assiettes, tous les verres partout.
Il n'y aura rien à la fin.
Et je ne sais pas s'il y aura rien, mais où il y aura une décision impérative qui va déplaire à tout le monde. Je pense qu'on prend les choses à l'envers. Autant peut-être avec la Convention citoyenne, on a tenté d'écouter les citoyens. N'oublions pas que cette proposition vient de la Convention citoyenne. Attention, hein.
Après, cette Convention citoyenne, je me demande dans quelle mesure elle a été vraiment représentative de l'opinion française, parce que je trouve qu'elle est en décalage quand même total avec la majorité des enquêtes d'opinion.
Une convention n'est pas une enquête d'opinion. C'est-à-dire que des personnes qui ont été regroupées, qui ne se connaissaient pas, mais qui ont travaillé avec des experts.
Ne sont-ils pas orientés par ces experts?
Non, qui ont travaillé sur des études, et leur opinion s'est faite à partir de ça. C'est-à-dire on n'a pas demandé leur opinion au départ. Mon opinion, c'est pour qu'on... Non, c'est tu écoutes, et quelque part, on te dit, il faudrait peut-être que... Enfin, voilà, notre objectif, c'est... Et après, il y a une opinion qui est faite. Mais je pense que ce qu'ils souhaitaient malgré tout, c'est qu'il y ait un plan général, hein, qu'on ne détache pas une mesure comme celle-là, qu'on la porte un petit peu, voilà. Et surtout, on la mélange maintenant avec, je vous dis, cette décentralisation par petits bouts. Je trouve qu'on mélange et qu'on se met en difficulté.
Vous avez l'impression qu'on donne un peu un os à ronger à cette convention citoyenne. Vous voyez, on tient compte de ce que vous nous avez demandé. Voilà, on vous propose une écotaxe et on vous propose de la faire comme ça, mais
il
n'y a pas une grande réflexion par
rapport. Et en même temps, on dit aux conseils régionaux, voilà des années que vous nous bassinez en nous demandant la décentralisation et la gestion des routes et des rocades, attention, parce que Paris, hein, le périphérique, c'est de ça dont on parle, que Mme Pécresse a dans la tête. D'ailleurs, je me pose une question, parce que le périphérique, est-ce qu'il appartient à la région Île-de-France ou est-ce qu'il appartient à la ville de Paris? Parce que la ville de Paris...
C'est le Grand Paris.
Le Grand Paris, plutôt.
Ouais, au Grand Paris. Donc voilà, donc qui doit décider? Qui doit décider de cette affaire-là?
Mais ça,
je ne sais pas.
L'articulation métropole-région, bon, c'est une autre question
très vaste. Oui, mais en la matière, elle va être très importante.
Elle sera posée, même ici, par exemple, à Toulouse, avec la métropole et la région, c'est éventuellement...
Et le département aussi.
Je pense qu'après, il y a deux problèmes, en fait, sur le problème de l'Europe. J'aimerais y revenir quand même, parce que la fixation des taux, c'est-à-dire du taux de l'écotaxe, etc., ça va être quand même assez difficile à mettre en œuvre. Et vous avez en Europe quand même des écarts de pression fiscale qui sont majeurs, et y compris sur la question du transport, sur la question de l'économie. Donc vous allez prenez le risque quand même d'avoir un dumping environnemental très fort, et qui se fera tout de même au détriment des entreprises françaises. Alors à chaque fois, pourtant on nous parle quand même de souveraineté, etc. Depuis le début du Covid, Macron avait un petit peu réorienté... j'ai vu, mais c'est surtout en discours.
C'est un discours
là aussi, c'est un peu un os à ronger.
Il a un discours très européen.
Et moi, je l'approuve. Hein. Je sais qu'on ne partage pas cette position-là, mais moi, je l'approuve. Hein.
J'ai vu beaucoup de. J'ai vu quand même plusieurs députés de camps différents dire oui, il faudrait faire l'écotaxe, mais que pour les. Que pour les camions.
Et que pour les étrangers, soyons clairs, ça vient dans le débat.
Ça vient dans le débat. Mais de toute façon, ça va être
impossible.
C'est impossible en termes de droit de la concurrence.
C'est pas possible de mettre en place
impossible.
À ce jour.
Non, mais c'est pas possible avec les règles, supranationales. Ce n'est pas possible. Mais ça, ce sont des interrogations et des propositions qui, en revanche, ont un écho quand même dans l'opinion très fort.
Ouais.
Et qui vont trouver un terrain favorable, moi, je parle chez les gens.
Sauf qu'on peut avoir l'impression que les gens se font un petit peu balader. Hein. On cherche à les balader, en tout cas.
J'ai un peu l'impression qu'on donne un os à ronger aux conseils régionaux, aux conseils départementaux, et que par ce biais-là, on essaie de faire passer la mesure. Voilà, on n'a pas entendu encore beaucoup d'opinions, hein, c'est-à-dire que c'est quand même récent. Hein. L'Alsace l'avait dit déjà il y a très longtemps, hein, c'est quand ils ont fait la fusion de leurs deux départements, leur nouvelle structure s'est positionnée
déjà sur
ça.
Ça, par contre, c'est une piste aussi, par contre. Voilà. Ça peut être une piste que... on applique l'écotaxe, mais en décidant arbitrairement des régions où il y a une circulation routière énorme, comme l'Île-de-France... par exemple, et l'Alsace, mais en excluant les autres qui ont un trafic routier beaucoup moins important.
Sont moins concernés.
Voilà. Ça peut éventuellement. Mais ça tranche aussi avec l'égalitarisme territorial français, le jacobinisme, etc.
Oui, nous verrons.
Fin de la discussion sur ce premier sujet. Comme vous le dites, Annie Thomas, nous verrons bien si ce projet d'écotaxe voit le jour et s'il sera mis en place tel qu'il a été présenté et évoqué lors de ce débat. Petite pause d'une vingtaine de secondes comme d'habitude avant d'en venir au second sujet de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
L'ouvreuse fait son cinéma sur Radio Présence. Elle vous dit tout ce qu'il faut savoir de l'actualité du 7e art et des séries aussi.
N'oubliez pas l'ouvreuse avec Louis-Marie Solaire et son équipe, tous les mercredis à 19h.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous voici de nouveau à l'antenne avec les invités de ce numéro, Annie Thomas et Gabriel Robin, pour le second débat de la soirée. Je pense que tout le monde a entendu parler des récents sondages concernant les candidats déclarés ou supposés à l'élection présidentielle de 2022. Tous donnent Marine Le Pen et Emmanuel Macron largement en tête au premier tour. La plupart des observateurs, des commentateurs politiques voient aussi le duel Macron-Le Pen comme inéluctable au second tour de la présidentielle 2022, ou ne voient pas en tout cas pour l'instant de candidats susceptibles de brouiller les cartes. Est-ce que c'est aussi votre avis, ou pensez-vous que des candidatures annoncées ou se faisant jour prochainement pourraient empêcher qu'ait lieu en 2022 le match retour de 2017 ? Gabriel Robin, vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, écoutez, moi je crois que rien n'est jamais inéluctable en politique, mais que les indicateurs constants depuis plusieurs années semblent conduire vers un duel entre le sortant, Emmanuel Macron, et sa précédente adversaire en 2017, Marine Le Pen. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus probable selon toute vraisemblance. Si j'avais de l'argent à parier chez un bookmaker anglais, je pense que c'est le duel sur lequel je miserais, de toute évidence. Après, c'est pas fait. Il peut y avoir des troubles faits. C'est pas fait aussi pour. Ça peut être. Ça peut très bien être Marine Le Pen contre quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, à force de jouer tout de même d'une ambiguïté avec sa jambe gauche, sa jambe droite, des signaux contradictoires sur tous les sujets politiques, économiques, culturels, comme ce numéro de duettiste qu'il y avait parfois entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, bon flic, mauvais flic. Ça, il adore faire ça, Emmanuel Macron, et orchestrer aussi des oppositions de façade entre certaines de ses ministres.
De fausses oppositions à l'intérieur du gouvernement.
Il peut se retrouver débordé par un candidat de droite qui aurait décidé de ne pas abandonner le centre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 après l'élection présidentielle? C'est que Laurent Wauquiez a adopté une stratégie extrêmement mauvaise. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, il s'est dit, puisqu'il y a Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, ma seule chance, c'est de dépouiller le RN, le Rassemblement National, d'aller sur son terrain sur les questions régaliennes, les questions d'insécurité culturelle, d'immigration, etc. Et de prendre en fait l'électorat du Rassemblement National comme l'avait fait Sarkozy. Alors déjà, tout le monde n'est pas Sarkozy. Il y a eu l'expérience Sarkozy.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a eu l'expérience Sarkozy qui a déplu en plus à beaucoup d'électeurs.
Ils se sont sentis floués.
D'électeurs de cette droite-là. Droite conservatrice, droite populiste. Enfin, plusieurs d'ailleurs branches à l'intérieur. Et Wauquiez, en fait, en tirant un trait sur le centre, a laissé Emmanuel Macron poursuivre. Moi, ce que j'ai appelé dans mon essai, je me fais un petit peu de pub dans le nom du peuple, le 18 brumaire du centrisme. Parce qu'en fait, 2017, pour moi, c'était ça. C'était le 18 brumaire du centrisme. C'est la première fois que les centristes ont vraiment pris le pouvoir en France et un pouvoir ultra majoritaire, central, en bénéficiant des institutions, en fait, en utilisant au maximum les institutions. C'est Charles Pasqua qui avait dit dans les années 80, au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est de reproduire donc ce qui s'est passé en 2017 en se disant « Ah ben tiens, il y aura toujours plus de gens pour l'éliminer elle que pour m'éliminer moi. » Sauf que cette fois-ci, je crois quand même que les choses ont passablement évolué et que l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen, si elle est loin d'être certaine évidemment, se dessine plus précisément. Et dans l'opinion, elle peut avoir, effectivement, en tout cas sur l'électorat, les Républicains, et même sur une partie de l'électorat de gauche, elle peut quand même marquer quoi, des points.
Alors, on viendra dans un second temps sur les chances de Marine Le Pen en cas de match retour de la FIFA 2017. Mais d'abord, je reviens à la question que je posais, et je la pose à Annie Thomas. Est-ce que pour vous, ce duel est inéluctable?
Alors... C'est difficile de jouer à Madame Soleil, voilà, vous comprenez ça. Bien.
Avec ce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr.
Avec ce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr. Mais d'abord, je dois dire que je ne souhaite pas ce duel, non pas pour Macron, mais pour Marine Le Pen. Donc, personnellement, je ne souhaite pas que ce duel revienne. Et surtout, je veux insister sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme dans une élection présidentielle. On a le souvenir de la dernière élection de 2017 déjà, bien évidemment. Mais je voudrais remonter, si vous permettez, juste un peu plus haut, pour rappeler 2002.
Oui.
2002, et en particulier une anecdote qui est arrivée à quelques amis historiens universitaires toulousains. Une grande maison d'édition toulousaine leur avait demandé un livre intitulé « Le duel Jospin-Chirac ». Ce livre est écrit, ce livre est édité, et puis au final, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous n'avons pas eu le duel
Jospin
a été éliminé. Et donc, ça a été le duel Chirac-Le Pen père, avec une mobilisation absolument extraordinaire, un rejet terrible, et une élection en pantoufle pour le président Chirac. Donc, à ce moment-là, on peut dire que, quelque part, les sondeurs s'étaient trompés, parce qu'ils n'avaient pas prévu ce scénario.
À la fin, voilà. Tout à la fin, dans la dynamique aussi, sur la dernière
Madame Chirac, apparemment, qu'il avait prévu, mais les sondeurs tels que...
Et Madame Mitterrand.
Et Madame Mitterrand, peut-être. Et quelque part aussi, ils avaient un peu trompé, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui auraient, auraient pu ne pas voter. Voilà, ou qui n'auraient pas, n'auraient pas voté pour Madame Taubira ou pour Monsieur Chevènement, par exemple.
En fait, c'est super intéressant, parce que Chevènement était très haut à un moment.
Bien sûr.
Et en fait, à mesure qu'il a baissé, Jean-Marie Le Pen a repris en fait des voix aussi à Chevènement.
Mais
on s'en est aperçu après.
Moi personnellement, je vais livrer un secret. J'ai voté pour Madame Taubira. Je ne le regrette pas. C'est quelqu'un que j'apprécie. Mais je ne l'aurais pas fait si effectivement j'avais perçu ce danger. Donc effectivement, peut-être que ces sondeurs aujourd'hui aident aussi ceux qui vont peut-être aller à la pêche à se dire il ne faut pas aller à la pêche. Mais je reviens à 2017 puisque c'est aussi notre base. Hein. Alors Emmanuel Macron est élu. Mais outre ses qualités intrinsèques, et il en a, je pense que là, il a montré une fraîcheur, un intérêt par rapport à cette campagne qui a plu. Il a inspiré le centrisme,
Il
avait des moyens, bien évidemment. Mais les autres aussi avaient des moyens. Mais avouons que ses adversaires lui ont vraiment, vraiment facilité la vie. Les deux adversaires, la gauche et la droite. La gauche élimine son champion naturel. Excusez-moi du peu, le président de la République sortant.
C'est Macron qui l'a éliminé.
Non. Il s'est éliminé. La gauche elle-même l'a éliminé. Elle ne l'a pas soutenu. Elle l'a poussé à sortir. On ne le voyait pas. Donc la gauche elle-même, c'est-à-dire le président sortant, n'a pas été en capacité d'incarner justement la gauche. Et le Parti socialiste, à ce moment-là, choisit dans une primaire le candidat le plus clivant possible, Benoît Hamon.
Ça, j'ai une explication pour ça.
L'explication, elle est interne dans le fonctionnement même de la gauche et du Parti socialiste. La droite, pas mieux. Elle élit un champion qui est François Fillon. Elle élimine Juppé, donc qui avait
favori de la primaire.
Favori des sondages, favori apparemment des citoyens. C'est la droite.
Je vais vous dire.
Pardon. Oui. Laissez-moi terminer. Donc, Fillon est élu. Fillon a une affaire vraiment qui occupe la presse, qui occupe la politique. Peu importe, je veux dire, il a eu ce qu'il a eu. Et à ce moment-là, son parti est incapable. Parti incapable de dire stop, on arrête les frais, on change de candidat. Parce que c'était une hypothèse. Ils ne l'ont pas fait. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, la voie était extraordinaire pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui restait en face? Le Front National, en fait, le Rassemblement, il s'appelait le Front National à l'époque, le Rassemblement National, imperturbable sur ses fondamentaux. Et voilà comment un duel s'est mis en place sur cette affaire-là. Est-ce que ce scénario-là va se répéter en 2022? Vous comprenez bien que de ce que je pense, moi, ce scénario se répétera si les adversaires potentiels d'Emmanuel Macron à droite et à gauche, et je le situe bien, à droite et à gauche, ne sont pas en capacité de s'organiser, de présenter un candidat crédible et qui fait le poids face à Macron, voire même à Madame Le Pen. Je reviendrai après sur Marine Le Pen et le débat avec Darmanin, parce que vous nous aviez interrogé peut-être.
Oui,
vous
souhaitez interroger là-dessus, parce
donc,
que
c'est important. Pour moi, sur cet aspect-là, Emmanuel Macron a, comme il le dit souvent, hein, un alignement d'étoiles absolument extraordinaire, mais ce sont ses propres adversaires qui lui ont facilité le chemin, dont effectivement, il a trouvé en face de lui la personne qui, elle, reste là, sur ses 25%, imperturbables, tels qu'ils sont là, point final, bien sûr, c'est normal, et ils sont là, ils n'ont pas été détruits, je dirais, par l'idiotie de la gauche et l'idiotie de la droite.
Gabriel Roux.
Alors, sur la question des élections primaires à gauche et à droite, il y a un truc tout simple. C'est que souvent dans les partis, on confond l'opinion militante et l'opinion de l'électorat. Et ça, c'est un phénomène qui vaut pour tous les partis. C'est-à-dire que les militants d'un parti ne sont jamais représentatifs de l'électorat de ce parti. Donc, c'est
l'électorat potentiel.
De l'électorat potentiel, de la base électorale en tout cas, ou des sympathisants lointains. Et souvent, les militants, si on leur donne l'occasion de voter à des primaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font plaisir. On l'a vu notamment avec Benoît Hamon, où finalement, c'est l'aile gauche du PS qui était la plus militante, la plus impliquée dans les instances, c'est celle qui avait des cartes de membres en fait, du Parti Socialiste, qui s'est lâchée et qui a choisi Benoît Hamon. Benoît Hamon qui avait un programme vraiment lunaire, qui lui-même est lunaire, hein, entre nous, qui d'ailleurs depuis ne cesse de décliner, de presque de susciter la moquerie, il en ferait presque de la peine. À droite, Fillon, c'était beaucoup plus crédible. Bon, il y a eu un incident de parcours sur Fillon. Mais Fillon, c'était aussi un choix de militant. C'était un choix de militant, mais qui avait beaucoup plus de cohérence dans la perspective de l'élection présidentielle, puisqu'il
ils
avait...
Ils ont éliminé Juppé, ils ont éliminé Sarkozy.
Voilà.
Les militants.
Mais Fillon était entre les deux, quoi. C'était ça l'idée. Pour ce qui concerne le Rassemblement National, effectivement, c'est un parti, c'est le seul parti en France aujourd'hui qui a un socle aussi solide. C'est-à-dire, c'est le seul parti où il y a une adhérence totale entre l'électorat, les militants et la tête, en fait, la représentation. Avec en plus, quand même, une marge de progression sur une partie de la droite LR qui est non négligeable. On le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé à Perpignan avec Louis Alliot, où Louis Alliot a réussi au second tour à récupérer une grande partie de la liste En Marche qu'il a soutenu. La moitié quasiment de la liste En Marche a soutenu Louis Alliot dans le cadre d'un second tour contre les Républicains. Ça, c'est majeur. C'est un vrai changement quand même. Ça change la donne.
C'est reproductible au niveau national, ça, vous pensez ?
Alors, ça va être très complexe, mais vous savez, les choses vont évoluer assez vite, et ce qui peut évoluer pour Emmanuel Macron peut aussi évoluer dans l'autre sens. Il est vrai que ce que je vois chez LR... Et ce que je vois à gauche, bon, je vois beaucoup de divisions, je vois pas du tout de candidats naturels. Dès qu'ils sont testés dans les sondages, ça fait mal. Hidalgo, on voit bien que ça va pas. Montebourg, même lui, ça va pas. Alors que Montebourg, il se présente sur une proposition de gauche souverainiste, etc., rassembleuse. Mélenchon, il est quand même dans une quête individuelle extrêmement à gauche, et je pense pas qu'il va lâcher le morceau comme ça. Donc ce que je vois à gauche, bon, non. En revanche, chez LR, il y a un peu plus de possibilités, avec éventuellement un Bertrand, qui est un centriste, qui pourrait aller chercher des voix chez Macron. Bertrand, il y a aussi la question, il va se retrouver en duel contre le Rassemblement National. Il avait battu Marine Le Pen, et c'est vrai qu'il s'en sert, ça. Il est assez populaire. Bertrand me semble plus en mesure d'aller embêter, de jouer les troubles faits. C'est le seul, aujourd'hui, dans tout le paysage politique français...
C'est ce que disent les sondages, d'ailleurs.
Oui, et je crois qu'ils ont raison, parce que sa personnalité est moins clivante, etc. Le problème qu'il va avoir, il va avoir deux problèmes, c'est-à-dire que sur la question régalienne, immigration et tout, il ne sera pas assez musclé pour la droite, qui, en France, représente quand même un gros morceau, aujourd'hui, de l'opinion. Hein. On peut l'évaluer à 33%, si vous additionnez Dupont-Aignan, Marine Le Pen et d'autres, ça fait bien un tiers de la France.
Bah, c'est le score de Marine Le Pen en 2017, 33%.
Voilà.
Je pense que ça, effectivement...
Sauf que dans le cadre d'un second tour contre Emmanuel Macron cette fois-ci, et vu la personnalité clivante, il a réussi à prendre une partie de LR. Il joue bien de sa partition avec Darmanin, c'est-à-dire Darmanin, j'aimerais en venir là au débat.
Oui, on va en parler du débat.
Très vite, mais Darmanin, c'est Gérald Darmanin, il est surnommé ainsi, c'est pas si faux. C'est-à-dire qu'il dit à Marine Le Pen, vous êtes plus molle que moi, ce qui n'est pas vrai en réalité. Et il fait en même temps, le lendemain, il demande la dissolution de Génération Identitaire. C'est pas que je sois pour Génération Identitaire, mais au regard de nos libertés publiques et du droit français, aller chercher la loi de 36 pour ça, juste le lendemain du débat, on sent bien que l'idée... C'est quand même d'apparaître comme un dur. Et d'ailleurs, j'étais contre aussi la dissolution d'une association pourtant islamiste, qui est Baraka City, parce que je pense qu'on est en pleine régression de l'exercice de la liberté publique et qu'on passe à un régime préventif, ce qui pour moi est extrêmement dangereux. Je suis favorable au régime répressif parce que je crois en la démocratie libérale et je crois en un fonctionnement libéral de nos institutions, de notre droit. Alors là, c'est pas un sujet si annexe que ça, parce que cette restriction, elle est réelle en France. Elle s'exerce au détriment de la liberté d'association, au détriment de la liberté d'expression, au détriment aussi donc de la pluralité d'opinion. Et je crois qu'on y perd beaucoup de cette hystérisation et de cette façon, à chaque fois que quelqu'un dit un truc qui nous déplaît, toutes les associations lui tombent dessus, on les envoie aux tribunaux, tous les journaux. La plupart des magazines et des médias sont obligés aujourd'hui d'avoir un budget prévisionnel de juristes et d'avocats, parce qu'en fait ils sont tout le temps en procès, parce que c'est souvent du pénal la diffamation, donc ça coûte rien et vous avez toutes les assos qui vont porter plainte. Et alors le gouvernement arrive à jouer ce jeu, mais moi il me semble quand même que l'électorat naturel de Marine Le Pen, il n'est pas dupe, quand même, sur Darmanin, sur Macron, etc. Et que le diminuer, ce sera très, très difficile.
Annie Thomas, je vais dire
que je ne vais pas pleurer sur Génération Identitaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Génération Identité, oui. Identitaire.
Pas
voilà.
Identitaire.
Pourquoi ? Parce que l'idéologie sur laquelle repose leur action et leur appel est à vomir.
Mais si on interdit ça, on interdit la contestation de l'immigration. C'est scandaleux.
Oui, mais je ne dis
ça
pas
qu'on... Que...
Non. Ce qu'on dit des immigrants est à vomir.
Mais
voilà,
le Parti communiste français,
si
vous
prenez
les bases, c'est Marx, c'est la haine du prolétariat.
Pardon.
C'est la haine de pardon de la bourgeoisie.
Vous n'allez pas me le faire avec la lutte
donc,
du prolétariat,
donc,
je vous en prie.
Pourquoi pas les interdire ? Pourquoi pas interdire les royalistes ? On peut tout interdire, madame.
Non, mais on peut interdire beaucoup.
On peut tout interdire,
la loi
des religions.
Si,
L'Ancien
s'ils
Testament,
estiment,
c'est violent.
S'ils estiment que cette décision n'est pas conforme aux lois de la République, ils vont aller en justice et la justice va dire si c'est conforme aux lois
Je
de la République.
Mais alors là, vous dites un
point final.
Vous trompez sur un point, c'est que c'est le pouvoir exécutif qui juge de l'opportunité
mais bien,
politique
mais parce
et le Conseil d'État, il faudra qu'appliquer. Et vous savez qu'il y a une explication extensive
notre
de la
Constitution
loi de
donne la possibilité au pouvoir exécutif. Bien sûr que oui.
Oui, mais vous savez que c'est un appel
la Constitution
qui n'est pas suspensif.
Donne,
oui,
donne au pouvoir exécutif
alors,
le droit de faire ceci. Voilà.
Revenons
je reviens
à
Marine Le Pen. Oui, je disais tout à l'heure qu'elle était imperturbable par rapport à son socle et ce qu'elle a pu être en face d'Emmanuel Macron. Et l'autre jour, j'ai regardé ce débat, effectivement, et je l'ai trouvé toujours imperturbable, mais imperturbable dans sa vacuité, dans sa platitude. Je suis vraiment là. Plus ça va, plus j'écoute cette personne, plus j'ai un problème. L'autre jour, le débat avec M. Darmanin, que vous qualifiez d'art malin, je pense qu'il est beaucoup plus malin qu'elle, effectivement. Je n'arrive pas à comprendre une personne qui veut démolir quelqu'un, passer une heure en tenant à la main le livre de Gérard Darmanin. C'est ça qu'elle a fait pendant une heure. Le livre qu'elle avait à la main, c'était le livre de Gérard Darmanin. Elle était en train de vouloir démolir Gérard Darmanin. Elle lui a fait de la publicité pendant une heure avec ce livre, avec des petits points, des petites post-it
oui,
jaunes.
Pour marquer les pages.
Non, mais ça rime à quoi, cette affaire-là ? Donc, elle a fait une publicité absolument extraordinaire au ministre. Elle a été même obligée de lire un certain nombre d'extraits qu'elle estimait élogieux. Elle lui disait « Alors là, vous êtes très bien, hein, ce que vous avez écrit, c'est formidable, mais là, la loi, c'est très mauvais. » Alors qu'elle-même, elle est avocate, elle est juriste, elle n'est pas capable de faire la différence entre un livre d'opinion et la loi. La loi, moins l'on dit, mieux c'est. Nous savons tous, hein, autour de cette table, que la loi est bavarde, et moins elle l'est, mieux elle se porte. Donc, en la matière, j'ai trouvé que son raisonnement était absolument nul, je le dis très très bien, et j'ai eu l'impression qu'elle s'accrochait à ce livre parce qu'elle ne savait pas à quoi d'autre s'accrocher. Franchement, je le dis, elle n'a pas matché contre Gérald Darmanin.
Donc vous pensez que par rapport au fameux débat de 2017 entre
c'est
les
pareil.
Deux tours, elle n'a pas du tout progressé ?
Absolument pas.
Est-ce que c'est votre avis aussi, Gabriel Robin ?
Écoutez, moi je sais pas si... Je crois que c'était un débat qui était focalisé sur simplement une question, sur cette loi séparatiste. Moi, j'étais peu favorable à la loi séparatiste pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées pour la dissolution de Génération Identitaire, en fait, parce que je trouve qu'elle est restrictive des libertés publiques et c'est un souci qui est fondamental pour moi. Il y avait des choses que je trouvais très, très problématiques dedans, notamment d'interdire l'école à la maison. D'imposer l'école obligatoire à 3 ans. J'ai trouvé que Marine Le Pen s'était tout de même assez bien défendue. Elle a pu exprimer ses opinions, elle a pu exprimer sa volonté aussi d'être dans l'apaisement sur un certain nombre de sujets. Je me suis aperçu surtout qu'ils étaient en réalité sur les solutions pas forcément d'accord, mais sur le constat. J'ai bien vu qu'ils étaient d'accord, que tout le monde, finalement, finit par être d'accord sur cette question, qu'il y a un problème, mais que la solution est-elle de restreindre nos libertés pour quelques-uns ? Je ne crois pas. C'est-à-dire, regardez, au XIXe siècle, après la loi de 1881 sur sur la presse, il y a eu ce qu'on appelle, qui est une loi de principe, la loi de 1881 sur la presse, exactement comme la loi de 1901 sur l'association, il y a eu ce qu'on appelle les lois scélérates. Alors, les lois scélérates, elles visaient les anarchistes, en fait, et l'expression publique des anarchistes. Parmi les anarchistes, en plus, à l'époque, c'était très complexe, parce qu'il y a beaucoup d'anarchistes qui étaient boulangistes. Donc c'était la frontière, à l'époque, entre la droite et la gauche radicale était beaucoup plus floue qu'aujourd'hui. Les lois scélérates, elles ne portent pas ce nom par hasard. C'est parce qu'en fait, elles étaient utilisées, non pas simplement après pour restreindre la parole des anarchistes, dont il fallait relever toutes les minutes des procès dans la presse, ce qui était quand même surréaliste, y compris leurs conversations privées avec leurs avocats ou avec les gens du public, parce qu'elles étaient restrictives des libertés publiques. Vous avez eu aussi après la loi de 36, qui est une loi de réaction contre les ligueurs, qui sort opportunément cette loi de 36 pour pouvoir dissoudre les associations après en fait le coup de force de l'Action française et des ligues. Donc on se dit il faut dissoudre les trucs. Après 68, on a dissous énormément d'organisations trotskistes, maoïstes, Ordre Nouveau aussi. Et là je pense qu'on est aussi dans la réaction. Et moi j'aimerais qu'on ait un État et des responsables politiques qui soient beaucoup plus dans un ordre public, dans une vision de l'ordre public prospective. En fait, je considère que Darmanin, Macron sont les héritiers de 40 ans d'errements coupables en la matière, de 40 ans d'immigration totalement incontrôlée, et que je crois en tout cas moi, extrêmement dangereuse, puisqu'on n'a jamais pensé ça, on n'a jamais vraiment interrogé les Français, de 40 ans de laxisme, de 40 ans de mauvaise coordination entre le pouvoir, entre la police et la justice, de 40 ans aussi d'une organisation de la justice qui est délirante, où il n'y a pas de séparation entre le siège et le parquet. Là, pour une fois, je suis d'accord avec Dupond-Moretti, il a raison. C'est quoi, c'est de faire la navette entre le siège et le parquet en France. Enfin, c'est délirant. Voilà. Moi, la chose que je constate, c'est que la majorité de la classe politique, en fait, est dans la réaction. Alors qu'il ne faut pas être dans la réaction. Quand on est un véritable responsable, on voit la France sur 100 ans. Et c'est pas du tout ce que je vois aujourd'hui, que ce soit au gouvernement ou ailleurs.
Ouais. Alors, je voulais réagir.
Je serai très, très rapide parce que je vois que vous regardez l'heure. Je ne suis absolument pas d'accord en disant que ce que vous disiez sur Emmanuel Macron et Darmanin, qui étaient les héritiers d'une situation.
Non, mais je ne dis pas qu'ils ont hérité. En fait, ce n'est pas leur faute.
Ils ont hérité et ils ont agi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une meilleure prise de conscience dans notre pays des difficultés de l'islamisme en termes d'idéologie, ce que parfois Madame Le Pen confusionnait l'autre jour entre le culte, l'idéologie, enfin son pataquès était absolument abominable. Je pense que les débats qui ont été portés par le président de la République sur l'islamisme, après malheureusement qu'on ait souffert, y compris avec Samuel Paty, les débats qui ont été portés sur la loi ont eu un rôle de clarification effectivement de ce qui se passe un petit peu dans notre pays, dans d'autres pays aussi, et des solutions qu'il y a à mettre en place, y compris bien sûr avec les musulmans et les représentants de la religion musulmane. Pour moi, le point très positif, c'est l'encadrement par rapport à la formation des imams, c'est la mobilisation des responsables musulmans du culte ou de la société qui est en cours en ce moment. Et je pense que là, et le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont marqué un point, et le vote à l'Assemblée nationale de la loi aujourd'hui, cet après-midi, un vote finalement très confortable, sans qu'on ait eu des flammes.
Je dis pas d'ailleurs que tout était mauvais.
Non, non, je pense que nous avons progressé sur cette question. Je partage avec vous le fait que beaucoup de partis, beaucoup de mouvements continuent un petit peu à s'illusionner ou à ne pas voir la réalité. Mais maintenant, si nous voulons voir la réalité, nous pouvons la voir, et c'est grâce à nos gouvernants.
Je crois pas que ce soit grâce à eux. Je pense que c'est grâce à une observation empirique au quotidien.
Non,
les Français,
non,
ils ont
non,
pas
non.
besoin de,
non,
d'Emmanuel
non, non,
Macron
non.
pour savoir que l'islamisme est un problème.
Il
y a eu des attentats quand même.
Il ne faut pas minimiser l'action des politiques.
Alors, je ne crois pas qu'en la matière, elle soit très importante. Par rapport au duel annoncé Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2022, est-ce que vous croyez qu'une candidature inattendue pourrait se faire jour dans les mois qui viennent d'ici la fin de l'année?
Alors, il y en a toujours eu. Regardez, il y a eu Coluche, il y a eu tout ça. Mais
sauf qu'il ne s'est
pas
présenté.
Voilà,
par exemple,
voilà. Il était candidat.
J'ai lu récemment un article de Camille Vigogne dans l'Express à propos d'Éric Zemmour, que je connais un peu, je n'y crois pas du tout.
Mais
par
rien,
exemple.
Il fera 0,1%, c'est rien.
Non, non, il ne ferait pas 0,1%, ouais. Mais de toute façon...
La question, c'est est-ce qu'il pourrait y
non,
aller.
Non, mais il n'a aucun ouais. intérêt à y aller, déjà, parce qu'il a, il occupe une fonction qui, je pense, lui plaît, qui est rémunératrice. Partir en politique, il faut avoir un appareil, il n'aurait pas d'appareil
il a pas
politique.
D'existence politique.
Il n'a pas de militant.
Il n'a pas d'existence politique.
Alors, donc moi, je n'y crois pas du tout. Ouais. Je ne crois pas trop à l'hypothèse, enfin, en tout cas... pareillement que tout à l'heure, je peux pas tout exclure. En politique, on peut jamais rien exclure. Donc c'est difficile d'être affirmatif, catégorique à 100%. Mais je ne donne pas une grande chance à la candidature d'Éric Zemmour, puisque c'est celle qui est souvent évoquée parmi les...
Elle est évoquée en ce moment.
Oui, voilà, qui est évoquée parmi les candidatures potentielles de troubles faites. Donc là,
on a parlé du général de Villiers, il y en a même qui ont parlé, ça, alors, Michel Onfray,
alors lui je n'y crois pas du tout. En plus, le général de Villiers, il est sur un créneau qui est très, qui marchera pas, parce qu'en fait il a une image, si vous voulez, d'homme de droite à la Zemmour, sauf qu'il n'est pas, c'est pas du tout ça en fait, ce type. Et donc en fait il va déplaire à son électorat potentiel.
Bah, il représente voilà. l'armée qui est normalement la grande muette et qui ne s'engage pas en politique.
Le général alors, je de dire, Gaulle bon.
Oui d'accord, mais le général de Gaulle, pardonnez-moi, il était auréolé de la résistance. Oui,
non mais bon,
clair,
c'est,
hein.
pas, c'est pas
attention,
parce que...
Attention, hein, on n'était pas sur le même schéma.
Un peut se présenter.
Monsieur de Villiers...
Non mais il n'y a rien qui nous l'interdit quand même.
Mais certainement, non, bien sûr. Sauf que...
Je veux dire, on a des types qui sont sortis d'école de com, je préfère avoir un général 5 étoiles.
Une candidature d'union de la gauche, en tout cas qui pourrait rassembler le PS, Europe Écologie, les Verts, est-ce
davantage.
Que c'est possible?
J'y crois davantage, bien
évidemment. Apparemment, ce serait la seule chance.
Mais bien sûr,
ouais,
j'y crois
vraiment
davantage.
Pour la gauche. Mais qui pour les réunir à part, peut-être Jadot.
Ça, c'est la question.
Jadot.
Voilà, c'est tout.
Jadot
voilà.
me semble assez... Jadot me semble le plus transversal aujourd'hui à gauche, et peut-être le plus à même de faire cette union. Montebourg, et il est un peu trop clivant dans son camp.
Et c'est oui, vrai qu'il s'est positionné vraiment.
Il
n'y
a que
Anne
Hidalgo ou Jadot pour moi qui peuvent
alors,
être
Hidalgo,
les deux
Hidalgo,
personnages.
Ça serait la candidate
voilà.
de quoi des grandes métropoles.
Voilà, Anne Hidalgo, voilà. Anne Hidalgo, ça ferait un fiasco. Anne Hidalgo, elle fait 7-8. Même pas.
Non, non,
elle acte encore plus.
Moi, je ne fais jamais, je ne vais pas faire des 7-8 ou pas, parce qu'on l'a vu avec Emmanuel Macron, inconnu 2 ans avant. Et,
non, mais Emmanuel Macron,
et
moi, j'y croyais.
Il
n'était
pas totalement connu. Il était
Emmanuel Macron, j'y croyais.
Il était aussi connu qu'Anne Hidalgo aujourd'hui. Anne Hidalgo aujourd'hui est très connue.
Ah, mais elle est connue.
Elle est très connue.
Si Eric me lisait à l'époque, j'étais persuadé que Macron allait gagner. Mais. Hidalgo, je peux vous assurer, c'est pas du tout le même profil. Macron, en fait, il a quand même joué un petit peu la droite. Hidalgo, elle serait très très marquée à gauche.
On est trop loin, je dirais, pour qu'on examine ici à ce micro les capacités
possibles. En tout cas,
ce
qui est certain, c'est que en l'absence d'une autre candidature à sa droite ou entre elle et LR. Marine Le Pen a de fortes chances de faire le score qu'il faut pour être au second tour.
Je ne le vois pas. Voilà. Face à Bertrand, elle ne pèse rien. Elle pèsera rien. Voilà.
Alors, on va rester là pour ce soir.
Non, mais je veux dire au premier tour.
Voilà.
Oui, tour. Inutile de dire qu'on aura l'occasion de reparler de l'élection présidentielle 2022 dans cette émission. Avant de terminer, vous allez pouvoir vous livrer en solo au petit exercice consistant à partager avec nos auditeurs vos colères, vos coups de gueule du moment. Annie Thomas commence.
Ah bien écoutez, c'est l'ancienne syndicaliste qui parle. Hein. J'ai été outré de voir que SFR avait retiré les tickets restaurants qu'elle payait à ses salariés qui sont en télétravail. Est-ce que vous imaginez les millions que SFR a gagnés pendant cette pandémie? Si on avait parlé de la petite PME du coin, qui n'a plus de boulot, qui n'a plus de contrat, qui est tout le temps en chômage partiel, peut-être, je l'aurais entendu, peut-être. Mais SFR, hein, avec 6 000 salariés en France et l'argent qu'ils sont en train de gagner pendant la pandémie, dont bien évidemment les syndicats sont allés au tribunal, sont au tribunal. SFR s'appuie sur un accord qui avait été signé en 2018, bien évidemment bien avant la pandémie, qui instituait un jour de télétravail et les modalités qui allaient avec. Et dont effectivement, le jour de télétravail, il n'y avait pas de chèque restaurant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Donc cet accord qui avait été fait, il avait été fait dans un contexte très particulier. Je pense que la justice va dire que le contexte a changé. Peut-être elle va leur dire renégocier un accord. Ça, je l'entends. Mais vraiment, enlever en ce moment les tickets restaurant aux personnes qui sont en télétravail, elles travaillent pour SFR. Elles doivent manger, elles aussi. Et rappelons-nous aussi que parfois, fois, certaines de ces personnes sont en chômage partiel, donc ça fait un an de chômage partiel parfois, donc on a une réduction des revenus, et là aussi avec le ticket restaurant, c'est à nouveau une réduction des revenus. Donc je suis très outré.
Le coup de gueule d'Annie Thomas, maintenant le coup de gueule de Gabriel Robin.
Je suis assez d'accord avec ce coup de gueule d'ailleurs, c'est vrai que c'est dégueulasse. Non, moi c'est plutôt un coup de cœur.
Eh bien allez-y.
Trois coups de cœur même.
Alors vite.
Enfin, c'est trois coups de cœur liés. Ça faisait longtemps que j'ai du mal à trouver de bons romans français ou de bons essais français. Il y avait le Reinhardt là qui était correct à la rentrée. Là à la rentrée de janvier, il y a un jeune homme qui était un peu dingo quand même, hein, qui avait eu le Renaudot. Je crois que c'était le prix de Flore.
Parlais de Marianne de Falvar.
Ouais, je parle de Marianne que je connais un peu. Qui a sorti L'Architecture, et qui est un roman qui, au moins, même s'il n'est pas si réussi que je l'aurais espéré, puis en plus, Fayard a fait beaucoup de coupes dans la structure, donc c'est pas aussi abouti, et puis ça fait un peu proseur sans cause.
Marianne de Falvar, L'Architecture, l'autre voilà. Coup de cœur, excusez-moi.
Oui, non, mais c'est juste pour dire, non, mais au moins, il y a une ambition. Son style porte une ambition, c'est déjà si rare en 2021, j'ai envie de dire merci. Après, Sébastien Lapac, lui, s'est raconté une histoire. Et puis c'est un type qui
est. Sébastien Lapac qui sera l'invité de Alain Finkielkraut samedi, voilà, en réplique.
Voilà, tout à fait.
Avec Patrice Jean, autre excellent romancier.
Et après, un type là qui est beaucoup plus contestable et contesté, que je sais que vous avez lu, Marc Edouard Nab avec Les Ports sur les Ports 2 sur le complotisme.
Les Ports 2. Marc Edouard Nab.
Il est parfois détestable, mais c'est quand même l'un des derniers grands stylistes en France.
Un écrivain joli depuis 30 ans. Fin de ce 24e numéro. Merci à vous deux, Annie Thomas et Gabriel Robin. Merci à Christophe Aubry à la réalisation et merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 25e numéro. Très bonne soirée à tous.